de George Sand, Metella. Le comte de Buondelmonte, revenant d'un voyage de quelques journées aux environs de Florence, fut versé par la maladresse de son postillon et tomba, sans se faire aucun mal, dans un fossé de plusieurs pieds de profondeur. La chaise de poste fut brisée et le comte allait être forcé de gagner à pied le plus prochain relais lorsqu'une calèche de voyage, qui avait changé de chevaux peu après lui à la poste précédente, vint à passer. Les postillons des deux voitures entamèrent un dialogue d'exclamations qui aurait pu durer longtemps encore sans remédier à rien si le voyageur de la calèche, ayant jeté un regard sur le comte, n'eût proposé le dénouement naturel à ces sortes d'accidents. Il pria poliment Buondelmonte de monter dans sa voiture et de continuer avec lui son voyage. Le comte accepta sans répugnance, car les manières distinguées du voyageur rendaient au moins tolérable la perspective de passer plusieurs heures en tête-à-tête avec un inconnu. Le voyageur se nommait Olivier. Il était genevois, fils unique, héritier d'une grande fortune. Il avait 20 ans et voyageait pour son instruction ou son plaisir. C'était un jeune homme blanc, frais, mince. Sa figure était charmante et sa conversation, sans avoir un grand éclat, était fort au-dessus des banalités que le comte, encore un peu aigri intérieurement de sa mésaventure, s'attendait à échanger avec lui. La politesse, néanmoins, empêcha les deux voyageurs de se demander mutuellement leur nom. Le comte, forcé de s'arrêter au premier relais pour y attendre ses gens, leur donner ses ordres et faire raccommoder sa chaise brisée, voulut prendre congé d'Olivier. Mais celui-ci n'y consentit point. Il déclara qu'il attendrait à l'auberge que son compagnon improvisé eût réglé ses affaires et qu'il ne repartirait avec lui que pour Florence. Il m'est absolument indifférent, lui dit-il, d'arriver dans cette ville quelques heures plus tard. Aucune obligation ne m'appelle impérieusement dans un lieu ou dans un autre. Je vais, si vous me le permettez, faire préparer le dîner pour nous deux. Nos vos gens viendront vous parler ici et nous pourrons repartir dans 2 ou 3 heures afin d'être à Florence demain matin. » Olivier insista si bien que le Florentin fut contraint de se rendre à sa politesse. La table fut servie aussitôt par les ordres du jeune Suisse, et le vin de l'auberge n'étant pas fort bon, le valet de chambre d'Olivier alla chercher dans la calèche quelques bouteilles d'un excellent vin du Rhin que le vieux serviteur réservait à son maître pour les mauvais gîtes. Le comte, qui, même sur les meilleures apparences, se livrait rarement avec des étrangers, but très modérément et s'en tint à une politesse franche et de bonne humeur. Le Genevois, plus expansif, plus jeune et sachant bien sans doute qu'il n'était pas forcé de veiller à la garde d'aucun secret, se livra au plaisir de boire plusieurs larges verres d'un vin généreux après une journée de soleil et de poussière. Peut-être aussi commençait-il à s'ennuyer de son voyage solitaire. Et la société d'un homme d'esprit l'avait-elle disposé à la joie? Il devint communicatif. Il est fort rare qu'un homme parle de lui-même sans dire bientôt quelque impertinence. Aussi le comte, qu'une certaine malice contractée dans le commerce du monde abandonnait rarement, s'attendait-il à chaque instant à découvrir dans son compagnon ce levain d'égoïsme et de fatuité que nous avons tous au-dessous de l'épiderme. Il fut surpris d'avoir longtemps attendu inutilement. Il essaya de flatter toutes les idées du jeune homme pour lui trouver enfin un ridicule, et il n'y parvint pas. Ce qui le piqua un peu, car il n'était pas habitué à déployer en vain les finesses gracieuses de sa pénétration. « Monsieur, dit le Genevois dans le cours de la conversation, pouvez-vous me dire si Lady Mowbray est en ce moment à Florence ?»« Lady Mowbray, dit Brennan d'Amonté avec un léger tressaillement. Ah, oui, monsieur, elle doit être de retour de Naples. Elle passe tous les hivers à Florence. Oh oui, monsieur, depuis bien des années. Vous connaissez Lady Mowbray? Non, mais j'ai un vif désir de la connaître. Ah. Est-ce que cela vous surprend, monsieur? On dit que c'est la femme la plus aimable de l'Europe. Oui, monsieur, et la meilleure. Vous en avez beaucoup entendu parler, à ce que je vois. J'ai passé une partie de la saison dernière aux eaux d'Aix. Lady Mowbray venait d'en partir, et il n'était question que d'elle. Combien j'ai regretté d'être arrivé si tard. J'aurais adoré cette femme-là. Vous en parlez vivement, dit le comte. Oh, je ne risque pas d'être impertinent envers elle, reprit le jeune homme. Je ne l'ai jamais vue, et ne la verrai peut-être jamais. Pourquoi non ? Ben, sans doute, pourquoi non, mais on peut aussi demander pourquoi oui. Je sais qu'elle est affable et bonne, que sa maison est ouverte aux étrangers, que sa bienveillance leur est une protection précieuse. Je sais aussi que je pourrais me recommander de quelques personnes qu'elle honore de son amitié. Mais vous devez comprendre et connaître, monsieur, cette espèce de répugnance craintive que nous éprouvons tous à nous approcher des personnes qui ont le plus excité de loin nos sympathies et notre admiration. Parce que nous craignons de les trouver au-dessous de ce que nous en avons attendu, dit le comte. Oh, mon Dieu, non, reprit vivement Olivier, ce n'est pas cela. Quant à moi, c'est parce que je me sens peu digne d'aspirer tout ce que j'éprouve, et en outre mal habile à l'exprimer. Vous avez tort, dit le comte en le regardant en face avec une expression singulière. Je suis sûr que vous plairiez beaucoup à Lady Mowbray. Comment vous croyez et pourquoi? D'où me viendrait ce bonheur? Elle aime la franchise, la bonté. Et je crois que vous êtes franc et bon. Je le crois aussi, dit Olivier. Mais cela peut-il suffire pour être remarqué d'elle au milieu de tant de gens distingués qui lui forment, dit-on, une petite cour? Mais, dit le comte reprenant son sourire ironique, remarquez, comment l'entendez-vous? Oh, monsieur, ne me faites pas plus d'honneur que je le mérite, répondit Olivier en riant. Je l'entends comme un écolier modeste, qui désire une mention honorable au concours, mais qui n'ambitionne pas le grand prix. D'ailleurs, je vais peut-être dire une sottise. Si vous ne buvez plus, permettez-moi de faire emporter cette dernière bouteille. Depuis un quart d'heure, je bois par distraction. Buvez, dit le comte en remplissant le verre d'Olivier, et ne me laissez pas croire que vous craignez de vous faire connaître à moi. Soit, dit le Genevois, en avalant gaiement son sixième verre de vin du Rhin. Ah, vous voulez savoir mes secrets, monsieur l'Italien? Eh bien, de tout mon cœur, je suis amoureux de Lady Mowbray. Bien, dit le comte en lui tendant la main dans un accès de gaieté sympathique. Très bien! Est-ce la première fois qu'un homme serait devenu amoureux d'une femme sans l'avoir vue? Non, parbleu, dit Monte. J'ai lu plus de 30 romans, j'ai vu plus de 20 pièces de théâtre qui commençaient ainsi. Et croyez-moi, la vie ressemble plus souvent à un roman qu'un roman ne ressemble à la vie. Mais dites-moi, je vous en prie, de tous les éloges que vous avez entendu faire de Lady Mowbray, quel est celui qui vous a le plus enthousiasmé? Attendez, dit Olivier, dont les idées commençaient à s'embrouiller un peu. Oh, oui, on raconte d'elle beaucoup de traits presque merveilleux. On dit pourtant que, dans sa première jeunesse, elle avait montré le caractère d'une personne assez frivole. « Comment dites-vous ? » demanda Brontendamonte avec sécheresse. Mais Olivier n'y fit pas attention. Oui, continua-t-il, je dis un peu coquette. Ah, c'est beaucoup plus flatteur, dit le comte. De sorte que, soit imprudence de sa part, soit jalousie de la part des autres femmes, sa réputation avait reçu en Angleterre quelques atteintes assez sérieuses pour lui faire désirer de quitter ce pays d'hommes flegmatiques et de femmes collémentées. Elle vint donc en Italie chercher une vie plus libre, des mœurs plus élégantes. Même on dit... Que dit-on, monsieur ? Dit le comte d'un air sévère. On dit, continua Olivier, dont la vue était un peu troublée, bah, elle l'a dit elle-même, en confidence à Aix, à une de ses amies intimes, qu'il a répété à tous les buveurs d'eau. Mais qu'est-ce donc qu'elle a dit ? S'écria le comte en coupant avec impatience un fruit et un peu de son doigt. Elle a dit que, à son arrivée en Italie, elle était si aigrie contre la justice des hommes et si offensée d'avoir été victime de leurs calomnies, qu'elle se sentait disposée à fouler aux pieds les lois du préjugé et à mener une vie aussi joyeuse que la plupart des grands personnages de ce pays-ci. Le comte ôta son bonnet de voyage et le remit gravement sur sa tête sans dire une seule parole. Olivier continua. Mais ce fut en vain. La noble lady fit ce vœu sans connaître son propre cœur. N'ayant point encore aimé et s'en croyant incapable, elle allait y renoncer, lorsqu'un jeune homme tomba éperdument amoureux d'elle et lui écrivit sans façon pour lui demander un rendez-vous. « Vous a-t-on dit le nom de ce jeune homme ?» demanda Buondelmonte. « Ma foi, je ne m'en souviens plus. C'était un Florentin. Et vous devez le connaître, car il est encore... » Le comte l'interrompit afin d'éluder la question. « Et que répondit Lady Marlbury ?» Elle accorda le rendez-vous, résolue à punir le jeune homme de sa fatuité et à le couvrir de ridicule. Elle avait préparé à cet effet je ne sais quel guet-apens de bonne compagnie, dont je ne sais pas bien les détails. N'importe, dit le comte. Le Florentin arriva donc, mais il était si beau, si aimable, si spirituel, que Lady Mowbray chancela dans sa résolution. Elle l'écouta parler, hésita et l'écouta encore. Elle s'attendait à voir un impertinent qu'il faudrait châtier. Et elle trouva un jeune homme sincère, ardent et romanesque. Que vous dirais-je ? Elle se sentit émue et essaya pourtant de lui faire peur en lui parlant de prétendus dangers qui l'environnaient. Le Florentin était brave, il se mit à rire. Elle tenta alors de l'effrayer en le menaçant de sa froideur et de sa coquetterie. Il se mit à pleurer et elle l'aima. Si bien que le comte de... Oh, ma foi, je crois que son nom va me revenir... Buonaccorsi, Belmonte, Buondelmonte... Ah ! Mais voici, le comte de Buondelmonte eut le pouvoir d'attendrir ce cœur rebelle. Lady Mowbray fixa à Florence ses affections et sa vie. Le comte de Buondelmonte fut son premier et son seul amant sur la joyeuse terre d'Italie. Maintenant que je vous ai raconté cette histoire telle qu'on me l'a donnée, dites-moi, vous qui êtes de Florence, si elle est vraie de tout point. Et cependant, si elle ne l'est pas, ne me dites pas que c'est un conte fait à plaisir. Il est trop beau pour que je sois désabusé sans regret. Monsieur, dit le comte, dont la figure avait pris une expression grave et pensive, cette histoire est belle et vraie. Le comte de Buondelmonte a vécu 10 ans, le plus heureux et le plus envié des hommes, au pied de Lady Mowbray. 10 ans ! S'écria Olivier. 10 ans, monsieur, reprit Buondelmonte. Il y a 10 ans que ces choses se sont passées. 10 ans ! Répéta le jeune homme. Lady Mowbray ne doit plus être très jeune. » Le comte ne répondit rien. « On m'a pourtant assuré à Aix, poursuivit Olivier, qu'elle était toujours belle comme un ange, qu'elle était grande, légère, agile, qu'elle galopait au bord des précipices sur un vigoureux cheval, qu'elle dansait à merveille. Elle doit avoir 30 ans environ, n'est-ce pas, monsieur ?»« Qu'importe son âge, dit le comte avec impatience. Une femme n'a jamais que l'âge qu'elle paraît avoir, et tout le monde vous l'a dit. Lady Mowbray est toujours belle. » On vous l'a dit, n'est-ce pas? Oh, on me l'a dit partout, à Aix, à Berne, à Gênes, dans tous les lieux où elle a passé. Elle est admirée, respectée, dit le comte. Oh, monsieur, vous la connaissez. Vous êtes son ami, peut-être. Je vous en félicite. Quelle réputation plus glorieuse que celle de savoir aimer! Que ce bon Del Monte a dû être lié de retremper cette belle âme, fière et de voir refleurir cette plante courbée par l'orage. Le comte fit une légère grimace de dédain. Il n'aimait pas les phrases de roman, peut-être parce qu'il les avait aimées jadis. Il regarda fixement le Genevois, mais voyant que celui-ci se grisait décidément, il voulut en profiter pour échanger avec un homme sincère et confiant des idées qui le gênaient depuis longtemps. Sans se donner la peine de feindre beaucoup de désintéressement, car Olivier n'était plus en état de faire de très clairvoyantes observations, le comte posa sa main sur la sienne afin d'appeler son attention sur le sens de ses paroles. « Pensez-vous, lui demanda-t-il, qu'il ne soit pas plus glorieux pour un homme d'ébranler la réputation d'une femme que de la rétablir quand elle a reçu à tort ou à raison de notables échecs ?»« Ma foi, ce n'est pas mon opinion, dit Olivier. J'aimerais mieux relever un temple que de l'abattre. »« Vous êtes un peu romanesque, dit le comte. » « Je ne m'en défends pas, cela est de mon âge. Et ce qui prouve que les exaltés n'ont pas toujours tort, c'est que Buon del Monte fut récompensé d'une heure d'enthousiasme par 10 ans d'amour. » « Lui seul pouvait être juge dans cette question, » reprit le comte. Et il se promena dans la chambre, les mains derrière le dos et le sourcil froncé. Puis, craignant de se laisser deviner, il jeta un regard de côté sur son compagnon. Olivier avait la tête penchée en avant, le coude dans son assiette, et l'ombre de ses cils, abaissée par un doux assoupissement, se dessinait sur ses joues que la chaleur généreuse du vin colorait d'un rosé plus vif qu'à l'ordinaire. Le comte continua de marcher silencieusement dans la chambre, jusqu'à ce que le claquement des fouets et les pieds des chevaux eussent annoncé que la calèche était prête. Le vieux domestique d'Olivier vint lui offrir une pelisse fourrée que le jeune homme passa en bâillant et en se frottant les yeux. Il ne s'éveilla tout à fait que pour prendre le bras de Buon del Monte et le forcer de monter le premier dans sa voiture, qui prit aussitôt la route de Florence. « Parbleu, dit-il en regardant la nuit qui était sombre, ce temps de voleur me rappelle une histoire que j'ai entendu raconter sur Lady Mowbray. »« Encore, dit le comte, mais Lady Mowbray vous occupe beaucoup. Ne me demandiez-vous pas quel trait de son caractère m'avait le plus enthousiasmé ? Ben, je ne saurais dire lequel. Mais voici une aventure qui m'a rendu plus envieux de voir Lady Mowbray que Rome, Venise et Naples. Vous allez me dire si celle-là est aussi vraie que la première. Un jour qu'elle traversait les Apennins avec son heureux amant Buon del Monte, ils furent attaqués par des voleurs. Le comte se défendit bravement contre 3 hommes, il en tua un, et luttait contre les 2 autres lorsque Lady Mowbray, qui s'était presque évanouie dans le premier accès de surprise, s'élança hors de la calèche et tomba sur le cadavre du brigand que Buondelmonte avait tué. Dans ce moment d'horreur, ranimé par une présence d'esprit au-dessus de son sexe, elle vit à la ceinture du brigand un grand pistolet dont il n'avait pas eu le temps de faire usage et que sa main semblait encore pressée. Elle écarta cette main encore chaude, arracha le pistolet de la ceinture et se jetant au milieu des combattants qui ne s'attendaient à rien de semblable, elle déchargea le pistolet à bout portant dans la figure d'un bandit qui tenait Buondelmonte à la gorge. Il tomba roide mort et Buondelmonte eut bientôt fait justice du dernier. N'est-ce pas là encore une belle histoire, monsieur ? Aussi belle que vraie, répéta Buondelmonte. Le courage de Lady Mowbray la soutint encore quelque temps après cette terrible scène. Le postillon, à demi-mort de peur, s'était tapi dans un fossé. Les chevaux effrayés avaient rompu leurs traits. Le seul domestique qui accompagnait la voyageur était blessé et évanoui. Buondelmonte et sa compagne furent obligés de réparer ce désordre en toute hâte, car à tout instant, d'autres bandits, attirés par le bruit du combat, pouvaient fondre sur eux comme cela arrive souvent. Il fallut battre le postillon pour le ranimer, bander la plaie du domestique qui perdait tout son sang, le porter dans la voiture et rateler les chevaux. Lady Mowbray s'employa à toutes ces choses avec une force de corps et d'esprit vraiment extraordinaire. Elle avisait à tous les expédients et trouvait toujours le plus sûr et le plus prompt moyen de sortir d'embarras. Ses belles mains souillées de sang rattachaient des courroies, déchiraient des vêtements, soulevaient des pierres, enfin, tout fut réparé et la voiture se remit en route. Lady Mowbray s'assit auprès de son amant, le regarda fixement, fit un grand cri et s'évanouit. « À quoi pensez-vous ?» ajouta le comte en voyant Olivier tomber dans le silence et la méditation. « Je suis amoureux, » dit Olivier. « De Lady Mowbray ?»« Oui, de Lady Mowbray. » »« Mais vous allez sans doute à Florence pour le lui déclarer, » dit le comte. « Je vous répéterai le mot que vous me disiez tantôt. »« Pourquoi non ?»«
En effet, » dit le comte d'un ton sec, « pourquoi non ?» Puis il ajouta d'un autre ton, et comme s'il se parlait à lui-même, « pourquoi non ?»
Monsieur, reprit Olivier après un instant de silence, soyez assez bon pour confirmer ou démentir une troisième histoire qui m'a été racontée à propos de Lady Mowbray et qui me semble moins belle que les deux premières.
Voyons, monsieur.
On a dit que le comte de Buondelmonte quitte Lady Mowbray.
« Mais pour cela, monsieur, répondit le comte très brusquement, je n'en sais rien et n'ai rien à vous dire. »«
Mais moi, on me l'a assuré, reprit Olivier, et quelque triste que soit ce dernier dénouement, il ne me paraît pas impossible. »«
Mais que vous importe, dit le comte. »«
Vous êtes le comte de Buondelmonte, dit Olivier. » Vivement frappé de l'accent de son compagnon. Et lui saisissant le bras, il ajouta « Et vous ne quittez pas, Lady Mowbray ?»«
Oui, je suis le comte de Buondelmonte, » répondit celui-ci.
« Le saviez-vous, monsieur ?»«
Ah, sur mon honneur, non !»«
En ce cas, vous n'avez pu m'offenser. Mais parlons d'autre chose. » Ils essayèrent, mais la conversation languit bientôt. Tous deux étaient contraints. Ils prirent d'un commun accord le parti de feindre le sommeil. Au premier rayon du jour, Olivier, qui avait fini par s'endormir tout de bon, s'éveilla au milieu de Florence. Le comte prit congé de lui avec une curiosité à laquelle il avait eu le temps de se préparer. « Voici ma demeure, » lui dit-il en lui montrant un des plus beaux palais de la ville devant lequel le postillon s'était arrêté. « Et au cas où vous oublieriez le chemin, vous me permettrez d'aller vous chercher pour vous servir de guide moi-même. Puis-je savoir où vous descendrez et à quelle heure je pourrai, sans vous déranger, aller vous offrir mes remerciements et mes services ?»« Je n'en sais rien encore, » répondit Olivier un peu embarrassé. « Mais il est inutile que vous preniez cette peine. Aussitôt je serai reposé, j'irai vous demander vos bons offices dans cette ville où je ne connais personne. »« J'y compte, » répondit Buonamente en lui tendant la main. « Je m'en garderai bien, » pensa le Genevois en lui rendant sa politesse. Ils se séparèrent. « J'ai fait une belle école, » se disait Olivier le lendemain matin, en s'éveillant dans la meilleure hôtellerie de Florence. « Ah, je commence bien. Aussi cet homme est fou d'avoir pris au sérieux les divagations d'un étourdi à moitié ivre. Enfin, j'ai réussi toutefois à me fermer la porte de Lady Mowbray, moi qui désirais tant la connaître. C'est horriblement désagréable, après tout. » Il appela son valet de chambre pour qu'il lui fît la barbe, et s'impatientait sérieusement de le pouvoir retrouver dans son nécessaire une certaine savonnette au Garofoli qu'il avait achetée à Parme, lorsque le comte de Buondelmonte entra dans sa chambre. « Pardonnez-moi si j'entre en ami sans me faire annoncer, » lui dit-il d'un air riant et ouvert. « J'ai su en bas que vous étiez éveillé et je viens vous chercher pour déjeuner avec moi chez Lady Mowbray. » Olivier s'aperçut que le comte cherchait dans ses yeux à deviner l'effet de cette nouvelle. Malgré sa candeur, il ne manquait pas d'une certaine défiance des autres. Il avait en même temps une honnête confiance en son propre jugement. On pouvait l'affliger, mais non le jouer ou l'intimider. « Mais de tout mon cœur, » répondit-il avec assurance, « je vous remercie, mon cher compagnon de voyage, de m'avoir procuré cette faveur. Maintenant, nous sommes quittes. » Les manières cordiales et franches de Buondelmonte ne se démentirent point. Seulement, comme le jeune étranger, tout en se hâtant, donnait des soins minutieux à sa toilette, le comte ne put réprimer un sourire qu'Olivier saisit au fond de la glace devant laquelle il nouait sa cravate. Si nous faisons une guerre d'embûches, pensa-t-il, c'est fort bien, avançons. » Il ôta sa cravate et gronda son domestique de lui en avoir donné une mal pliée. Le Hans en apporta une autre. J'en aimerais mieux une bleue de ciel, dit Olivier. Et quand Hans eut apporté la cravate bleue de ciel, Olivier les examina l'une après l'autre d'un air d'incertitude et de perplexité. « S'il m'était permis de donner mon avis, » dit le valet de chambre, timidement. « Vous n'y entendez rien, » dit gravement Olivier. « Monsieur le comte, je m'en rapporte à vous, qui êtes un homme de goût. Laquelle de ces deux couleurs convient le mieux au ton de ma figure ?» Lady Mowbray, répondit le comte en souriant, ne peut nous souffrir ni le bleu ni le rose. Donnez-moi une cravate noire, dit Olivier à son domestique. La voiture du comte les attendait à la porte. Olivier y monta avec lui. Ils étaient contraints tous deux, cependant il n'y parut point. Buondelmonte avait trop l'habitude du monde pour ne pas sembler ce qu'il voulait être. Olivier avait trop de résolution pour laisser voir son inquiétude. Il pensait que si Lady Mowbray était d'accord avec Buondelmonte pour se moquer de lui, sa situation pouvait devenir difficile. Mais si Buondelmonte était seul de son parti, il pouvait être agréable de le tourmenter un peu. En secret, leur première sympathie avait fait place à une sorte d'aversion.
Olivier ne pouvait pardonner au comte de l'avoir laissé parler à tort et à travers sans se nommer. Et le comte avait sur le cœur non les étourderies qu'Olivier avait débitées la veille, mais le peu de repentir ou de confusion qu'il en montrait. Lady Mowbray habitait un palais magnifique. Le comte mit quelque affectation à y entrer comme chez lui et à parler aux domestiques comme s'ils eussent été les siens. Olivier se tenait sur ses gardes et observait les moindres mouvements de son guide. La pièce où ils attendirent était décorée avec un art et une richesse dont le comte semblait orgueilleux, bien qu'il n'eût coopéré ni par son argent ni par son goût. Cependant, il fit les honneurs des tableaux de Lady Mowbray comme s'il avait été son maître de peinture et semblait jouir de l'émotion insurmontable avec laquelle Olivier attendait l'apparition de Lady Mowbray. Mais Tella Mowbray était fille d'une Italienne et d'un Anglais. Elle avait les yeux noirs d'une Romaine et la blancheur rosée d'une Anglaise. Ce que les lignes de sa beauté avaient d'antique et de sévère était adouci par une expression sereine et tendre qui est particulière au visage britannique. C'était l'assemblage des deux plus beaux types. Sa figure avait été reproduite par tous les peintres et sculpteurs de l'Italie. Mais malgré cette perfection, malgré ses triomphes, malgré la parure exquise qui faisait ressortir tous ses avantages, le premier regard qu'Olivier jeta sur elle lui dévoila le secret tourment du comte de Buondelmonte. Mais Tella n'était plus jeune. Avant aucun des prestiges du luxe qui l'entourait, aucune des gloires dont l'admiration universelle l'avait couronnée, aucune des séductions qu'elle pouvait encore exercer, ne la défendirent de ce premier arrêt de condamnation que le regard d'un homme jeune lance à une femme qui ne l'est plus. En un clin d'œil, en une pensée, Olivier rapprocha de cette beauté si parfaite et si rare le souvenir d'une fraîche et brutale beauté de Suissesse. Les sculpteurs et les peintres en eussent pensé ce qu'ils auraient voulu. Olivier se dit qu'il valait toujours mieux avoir 16 ans que cet âge problématique dont les femmes cachent le chiffre comme un affreux secret. Ce regard fut prompt, mais il n'échappa point au comte et lui fit involontairement mordre sa lèvre inférieure. Quant à Olivier, ce fut l'affaire d'un instant. Il se remit et veilla mieux sur lui-même. Il se dit qu'il ne serait point amoureux, mais qu'il pouvait fort bien, sans se compromettre, agir comme s'il l'était. Car si Lady Mowbray n'avait plus le pouvoir de lui faire faire des folies, elle valait encore la peine qu'il en fît pour elle. Il se trompait peut-être. Peut-être une femme en a-t-elle le pouvoir, tant qu'elle en a le droit. Le comte, dissimulant aussi sa mortification, présenta Olivier à Lady Mowbray avec toutes sortes de cajoleries hypocrites pour l'un et pour l'autre. Et au moment où Metella tendait sa main au Genevois en le remerciant du service qu'il avait rendu à son ami, le comte ajouta « Et vous devez aussi le remercier de l'enthousiasme passionné qu'il professe pour vous, madame. Celui-ci mérite plus que les autres. Il vous a adoré avant de vous voir. » Olivier rougit jusqu'aux yeux. Mais Lady Mowbray lui adressa un sourire plein de douceur et de bonté. Et lui tendant la main, « Soyons donc amis, lui dit-elle, car je vous dois un dédommagement pour cette mauvaise plaisanterie de monsieur. Oh, « Soyez ou non sa complice, répondit Olivier, il vous a dit ce que je n'aurais jamais osé vous dire. Je suis trop payé de ce que j'ai fait pour lui. » Et il baisa résolument la main de Lady Mowbray. L'insolent, pensa le comte. Pendant le déjeuner, le comte accabla sa maîtresse de petits soins et d'attention. Sa politesse envers Olivier ne put dissimuler entièrement son dépit. Olivier cessa bientôt de s'en apercevoir. Lady Mowbray, pâle, nonchalante et un peu triste qu'elle était d'abord, devint vermeille, enjouée, brillante. On n'avait exagéré ni son esprit ni sa grâce. Lorsqu'elle eut parlé, Olivier la trouva rajeunie de 10 ans. Cependant, son bon sens naturel l'empêcha de se tromper sur un point important. Il vit que Metella, sincère dans sa bienveillance envers lui, ne tirait sa gaieté, son plaisir et son rajeunissement que des attentions affectueuses du comte. « Elle l'aime encore, » pensa-t-il, « et lui, l'aimera tant qu'elle saura aimer les autres. » Dès ce moment, il fut tout à fait à son aise, car il comprit ce qui se passait entre eux, et il s'inquiéta peu de ce qui pouvait se passer en lui-même. Il était encore trop tôt. Le comte vit que Metella avait charmé son adversaire. Il crut tenir la victoire. Il redoubla d'affection pour elle afin qu'Olivier se convainquît bien de sa défaite. À 3 heures, il offrit à Olivier, qui se retirait, de le reconduire chez lui, et au moment de quitter Metella, il lui baisa 2 fois la main si tendrement qu'une rougeur de plaisir et de reconnaissance se répandit sur le visage de Lady Mowbray. L'expression du bonheur dans l'amour semble être exclusivement accordée à la jeunesse, et quand on la rencontre sur un front flétri par les années, elle y jette de magiques éclairs. Metella parut si belle en cet instant que Buondelmonte en eut de l'orgueil, et passant son bras sous celui d'Olivier, il lui dit en descendant l'escalier: « Eh bien, mon cher ami, êtes-vous toujours amoureux de ma maîtresse ?»« Toujours, » répondit hardiment Olivier, quoiqu'il n'en pensât pas un mot. Ben, « vous y mettez de l'obstination. Ben, ce n'est pas ma faute, mais bien la vôtre. Pourquoi vous êtes-vous emparé de mon secret? Pourquoi l'avez-vous révélé? À présent, nous jouons jeu sur table. Vous avez la conscience de votre habileté ?» Pas du tout, l'amour est un jeu de hasard. Vous êtes très facétieux. Et vous donc, monsieur le comte? Olivier consacra plusieurs jours à parcourir Florence. Il pensa peu à Lady Mowbray. Il aurait fort bien pu l'oublier s'il ne l'eût pas revue. Mais un soir, il la vit au spectacle et il crut devoir aller la saluer dans sa loge. Elle était magnifique aux lumières et en grande toilette. Il en devint amoureux et résolut de ne plus la voir. Lady Mowbray s'était maintenue miraculeusement belle au-delà de l'âge marqué pour le déclin du règne des femmes. Mais depuis un an, le temps inexorable semblait vouloir reprendre ses droits sur elle et lui faire sentir le réveil de sa main endormie. Souvent, le matin, Metella, en se regardant dans la parure devant sa glace, jetait un cri d'effroi à l'aspect d'une ride légère creusée durant la nuit sur les plans lisses et nobles de son visage et de son cou. Elle se défendait encore avec orgueil de la tentation de se mettre du rouge, comme faisaient autour d'elle les femmes de son âge. Jusque-là, elle avait pu braver le regard d'un homme en plein midi, mais des nuances ternes s'étendaient au contour de ses joues et un reflet bleuâtre encadrait ses grands yeux noirs. Elle voyait déjà ses rivales se réjouir autour d'elle et lui faire un meilleur accueil à mesure qu'elle la trouvait moins redoutable. Dans le monde, on disait qu'elle était si affectée de vieillir qu'elle en était malade. Les femmes assuraient déjà qu'elle se teignait les cheveux et qu'elle avait plusieurs fausses dents. Le comte de Buondelmonte savait bien que c'était autant de calomnies, mais il s'en affectait peut-être plus sincèrement que d'une vérité qui serait restée secrète. Il avait été trop heureux, trop envié depuis 10 ans pour que les jouissances de la vanité
qui sont les plus durables de toutes, n'eussent pas fait pâlir celle de l'amour. L'attachement et la fidélité de la plus belle et de la plus aimable des femmes avait-il développé en lui un immense orgueil ou l'avait-il seulement nourri? J'en sais rien. Toutes les personnes que je connais ont eu 20 ans. Et mes études psychologiques me portent à croire que presque tout le monde est capable d'avoir 20 ans, ne fût-ce qu'une fois en sa vie. Mais le comte en eut 30 et demi le jour où Lady Morway en eut. Je suis trop bien élevé pour tracer un chiffre qui désignerait au juste ce que j'appellerais, sans offenser ni compromettre personne, l'âge indéfinissable d'une femme. Et le comte, qui avait tiré une grande gloire de la préférence de Lady Mowbray, commença à jouer dans le monde un rôle moitié honorable, moitié ridicule, qui fit beaucoup souffrir sa vanité. 10 ans apportent dans toutes les passions possibles beaucoup de calme et de raisonnement. L'amitié, lorsqu'elle n'est qu'une survivance de l'amour, est plus susceptible de calcul et plus froide dans ses jugements. Une telle amitié, que 2 ou 3 exceptions qui sont dans le monde me le pardonnent, une telle amitié n'est point héroïque de sa nature. L'amitié de Buondelmonte pour Metella vit d'un œil très clairvoyant les chances d'ennui et de dépendance qui allaient s'augmentant d'un côté, et de l'autre les chances d'avenir et de triomphe qui étaient encore vertes et séduisantes. Une certaine princesse allemande, grande liseuse de romans et renommée pour le luxe de ses équipages, débitait des œillades sentimentales qui, au spectacle, attiraient dans leur direction magnétique tous les yeux vers la loge du comte. Une prima donna, pour laquelle quantité de colonels s'étaient battus en duel, invitait souvent le comte à ses soupers et le raillait de sa vie bourgeoise et retirée. Des jeunes gens, dont il faisait du reste l'admiration par ses gilets et les pierres gravées de ses bagues, lui reprochaient sérieusement la perte de sa liberté. Enfin, il ne voyait plus personne se lever et se dresser sur la pointe des pieds quand Lady Mowbray, appuyée sur son bras, paraissait en public. Elle était encore belle, mais tout le monde le savait. On l'avait tant vue, tant admirée. Il y avait si longtemps qu'on avait proclamé la reine de Florence, qu'il n'était plus question d'elle et que la moindre pensionnaire excitait plus d'intérêt. Les femmes osaient aborder les modes que la seule Lady Mowbray avait eu le droit de porter. On ne disait plus le moindre mal d'elle et le comte entendait avec un plaisir diabolique répéter autour de lui que sa conduite était exemplaire et que c'était une bien belle chose que de s'abuser aussi longtemps sur les attraits de sa maîtresse. La douleur de Metella, en se voyant négligée de celui qu'elle aimait exclusivement, fut si grande que sa santé s'altéra et que les ravages du temps firent d'effrayants progrès. Le refroidissement de Buondelmonte en fit à proportion égale. Et lorsque le jeune Olivier les vit ensemble, Lady Mowbray n'en était plus à compter son bonheur par année, mais par heure. « Savez-vous, ma chère Metella, lui dit le comte le lendemain du jour où elle avait rencontré Olivier au spectacle, que ce jeune Suisse était perdument amoureux de vous. Est-ce que vous auriez envie de me le faire croire ? Dit Lady Mowbray en s'efforçant de prendre un ton enjoué. Voilà au moins la 10e fois depuis 15 jours que vous me le répétez. Et quand vous le croiriez, dit assez sèchement le comte, qu'est-ce que cela me ferait ? Metella eut envie de lui dire qu'il n'avait pas toujours été aussi insouciant, mais elle craignit de tomber dans les phrases du vocabulaire des femmes abandonnées, et elle garda le silence. Le comte se promena quelque temps dans l'appartement d'un air sombre. Vous vous ennuyez, mon ami, lui dit-elle avec douceur.
Moi, non, pas du tout. Oh, je suis un peu souffrant.
Lady Mowbray se tut de nouveau, et le comte continua à se promener en long et en large. Quand il la regarda, il s'aperçut qu'elle pleurait. « Eh bien, qu'est-ce que vous avez ?» lui dit-il en feignant la plus grande surprise. « Vous pleurez parce que j'ai un peu mal à la gorge ?»« Si j'étais sûr que vous souffriez, je ne pleurerais pas. »« Grand merci, Milady. J'essaierai de vous soulager. Mais je crois que votre mal est sans remède. »« Quel est donc mon mal ?» S'il vous plaît. Regardez-moi, monsieur, répondit-elle en se levant et en lui montrant son visage flétri. Votre mal est écrit sur mon front.
Vous êtes folle, répondit-il en levant les épaules, ou plutôt, vous êtes furieuse de vieillir. Est-ce ma faute à moi? Puis-je l'empêcher?
« Oh, certainement, Luigi, répondit Metella, vous auriez pu l'empêcher encore. » Elle retomba sur son fauteuil, pâle, tremblante, et fondit en larmes. Le comte fut attendri, puis contrarié, et cédant au dernier mouvement, il lui dit brutalement, « Parbleu, madame, vous ne deviez pas pleurer, cela ne vous embellira pas. » Et il sortit avec colère. « Oh, il faut absolument que cela finisse, » pensa-t-il quand il fut dans la rue. « Il n'est pas à mon pouvoir de feindre plus longtemps un amour que je ne ressens plus. Tous ces ménagements ressemblent à l'hypocrisie. Ma faiblesse, d'ailleurs, prolonge l'incertitude et les souffrances de cette malheureuse femme. C'est une sorte d'agonie que nous endurons tous les deux. » Il faut couper ce lien, puisqu'elle ne veut pas le dénouer. Il retourna sur ses pas et la trouva évanouie dans les bras de ses femmes. Il en fut touché et lui demanda pardon. Quand il la vit plus calme, il se retira plus mécontent lui-même que s'il l'eût laissée furieuse. « Il est donc décidé, se dit-il en serrant les poings sous son manteau, que j'aurais pas l'énergie de me débarrasser d'une femme. » Il s'excita tant qu'il put apprendre un parti décisif, et toujours au moment d'en adopter un, il sentit qu'il n'aurait pas le courage de braver le désespoir de Metella. Après tout, que ce fût par vanité ou par tendresse, il l'avait aimée. Il avait vécu 10 ans heureux auprès d'elle. Il lui devait en partie l'éclat de sa position dans le monde. Il y avait des jours où elle était encore si belle qu'on le proclamait heureux. Et il était heureux, ces jours-là. Cependant, il le faut, pensa-t-il, car dans peu de temps, elle sera décidément laide. Je ne pourrai plus la souffrir et je ne serai pas assez fort pour lui cacher mon dégoût. Allons, notre rupture sera éclatante et rude. Il vaudrait mieux qu'elle se vît à l'amiable dès à présent. Il se promena seul pendant 1 heure au clair de la lune. Il était tellement malheureux que Lady Mowbray serait venue au-devant de ses desseins si elle avait su combien il était rongé d'ennui. Enfin, il s'arrêta au milieu de la rue, et regardant autour de lui dans une sorte de détresse, il vit qu'il était devant l'hôtel où logeait Olivier. Il y entra précipitamment, je ne sais pas bien pourquoi, et peut-être ne savait-il pas non plus lui-même. Quoi qu'il en soit, il demanda le Genevois, et apprit avec plaisir qu'il était chez lui. Il le trouva, se disposant à aller au bal chez un banquier auquel il était recommandé. Olivier fut surpris de l'agitation du comte. Il ne l'avait pas encore vu ainsi et ne savait que penser de son air inquiet et de ses fréquentes contradictions. Rien de ce qu'il disait ne semblait être dans ses habitudes ni dans son caractère. Enfin, après 1/4 d'heure de cette étrange manière d'être, Buondelmonte lui pressa la main avec effusion
et le conjura de venir souvent chez Lady Mowbray. Après lui avoir fait 1000 politesses exagérées, il se retira précipitamment comme un homme qui vient de commettre un crime. Il retourna chez Lady Mowbray. Il la trouva souffrante et prête à se mettre au lit. Il l'engagea à se distraire et à venir avec lui au bal chez le banquier Hart. Metella n'en avait pas la moindre envie, mais voyant que le comte le désirait vivement, elle céda pour lui faire plaisir et ordonna à ses femmes de préparer sa toilette. « Vraiment, Luigi, lui dit-elle en s'habillant, je ne vous comprends plus. Vous avez 1000 caprices. Avant-hier, je désirais aller au bal de la princesse Wilhelmine et vous m'en avez empêché. Aujourd'hui... » Ah, là, là, c'était bien différent. J'avais un rhume effroyable ce jour-là. Oh, je tousse encore un peu. On m'a dit cependant... Qu'est-ce qu'on vous a dit? Et qui est-ce qui vous l'a dit? Oh, c'est le jeune Suisse avec lequel vous avez voyagé et que j'ai vu au spectacle hier soir. Il m'a dit qu'il vous avait rencontré la veille au bal chez la princesse Wilhelmine. « Ah, madame, dit le comte, je comprends très bien les raisons de M. Olivier de Genève pour me calomnier auprès de vous. »« Vous calomniez ? » dit Metella en levant les épaules. « Est-ce qu'il sait que vous m'avez fait un mensonge ?»« Est-ce que vous allez mettre cette robe-là, milady ? » interrompit le comte. « Oh, mais vous négligez votre toilette déplorablement !» « Cette robe arrive de France, mon ami, elle est de Victorine, et vous ne l'avez pas encore vue. »« Mais une robe de velours violet, c'est d'une sévérité effrayante. »« Attendez donc, il y a des nœuds et des torsades d'argent qui lui donnent beaucoup d'éclat. »« Ah, c'est vrai, oui, voilà une toilette très riche et très noble. » « Ah, on a beau dire, Metella, c'est encore vous qui avez la mise la plus élégante. Il n'y a pas une femme de 20 ans qui puisse se vanter d'avoir une taille aussi belle. »« Hélas, dit Metella, je ne sens plus la souplesse que j'avais autrefois. Ma démarche n'est plus aussi légère. Il me semble que je m'affaisse et que je suis moins grande d'une ligne chaque jour. » « Vous êtes trop sincère et trop bonne, ma chère Lady, » dit le comte en baissant la voix. « Il ne faut pas dire cela, surtout devant vos soubrettes. Ce sont des babillardes qui iront le répéter dans toute la ville. »« J'ai un délateur qui parlera plus haut qu'elle, » répondit Metella. « C'est votre indifférence. »« Oh, toujours des reproches. Mon Dieu, qu'une femme qui se croit offensée est cruelle dans sa plainte et persévérante dans sa vengeance. Vengeance, moi, vengeance, dit Metella. Non, non, je me sers d'un mot inconvenant, ma chère Lady. Vous êtes douce et généreuse, j'en ai jamais douté. Allons, ne nous querellons pas au nom du ciel. Ne prenez pas votre air abattu et fatigué. « Votre coiffure est bien plate, ne trouvez-vous pas ? Vous aimez ces bandeaux lisses avec un diamant sur le front ? Je trouve qu'à présent, les tresses descendant le long des joues à la manière des reines du Moyen-Âge vous vont encore mieux. Il est vrai, oui, que mes joues ne sont plus très rondes et qu'on les voit moins avec des tresses. Francesca, fais-moi des tresses. » « Metella, dit le comte lorsqu'elle fut coiffée, pourquoi ne mettez-vous pas de rouge ?»« Hélas, il est donc temps que j'en mette, répondit-elle tristement. Je me flattais de n'en avoir jamais besoin. »« C'est une folie, ma chère, est-ce que tout le monde n'en met pas ? Les plus jeunes femmes en ont. » »« Mais vous haïssez le fard, et vous me disiez souvent que vous préfériez ma pâleur. » À une fraîcheur factice. Mais la dernière fois que vous êtes sorti, on vous a trouvé bien pâle. On ne va pas au bal uniquement pour son amant.
Mais j'y vais uniquement pour vous aujourd'hui, je vous jure. Ah, Milady, c'est à mon tour de dire qu'il n'en fut pas toujours ainsi. Autrefois, vous étiez un peu fière de vos triomphes. J'en étais fière à cause de vous, Luigi. À présent qu'il m'échappe et que je vous vois souffrir, je voudrais me cacher, je voudrais éteindre le soleil et vivre avec vous dans les ténèbres. Oh, vous êtes en veine de poésie, Milady. J'ai trouvé tout à l'heure votre Byron ouvert à cette belle page des ténèbres. Je ne m'étonne pas de vous voir des idées sombres. Eh bien, mais le rouge vous sied à merveille. Regardez-vous, vous êtes superbe. Allô, Francesca, apportez les gants et l'éventail de Milady. Voici votre bouquet, met-elle là, c'est moi qui l'ai apporté. C'est un droit que je ne veux pas perdre. Mettez-la, prit le bouquet, regarda tendrement le comte avec un sourire sur les lèvres et une larme dans les yeux. Allons, venez, mon ami, lui dit-il. Vous allez être encore une fois la reine du bal. Le bal était somptueux, mais par un de ces hasards facétieux qui se rencontrent souvent dans le monde, il y avait une quantité exorbitante de femmes laides et vieilles. Parmi les jeunes et les agréables, il y en avait peu de vraiment jolies. Lady Mowbray eut donc un très grand succès, et Olivier, qui ne s'attendait pas à la rencontrer, s'abandonna à sa naïve admiration. Dès que le comte le vit auprès de Lady Mowbray, il s'éloigna, et dès qu'il les vit s'éloigner l'un de l'autre, il prit le bras d'Olivier et, sous le premier prétexte venu, il le ramena auprès de Metella. « Vous m'avez dit en route que vous aviez lu Goethe, » dit-il au voyageur. « Parlez donc de lui à Milady. Elle est si avide d'entendre parler du vieux Faust qu'elle voulait m'envoyer à Weimar tout exprès pour lui rapporter les dimensions exactes de son front. Heureusement pour moi, le grand homme est mort au moment où j'allais me mettre en route. » Buondelmonte tourna sur ses talons fort habilement en achevant sa phrase et laissa Olivier parler de Goethe à Lady Mowbray. Metella, qu'il avait d'abord accueilli avec une politesse bienveillante, l'écouta peu à peu avec intérêt. Olivier n'avait pas infiniment d'esprit, mais il avait fait beaucoup de bonnes lectures. Il avait de la vivacité, de l'enthousiasme, et, ce qui est extrêmement rare chez les jeunes gens, pas la moindre affectation. Avec lui, on n'était pas forcé de pressentir le grand homme en herbe, la puissance intellectuelle méconnue et comprimée. C'était un vrai Suisse pour la franchise et le bon sens, une sorte d'Allemand pour la sensibilité et la confiance. Il n'avait rien de français, ce qui plut infiniment à Metella. Vers la fin du bal, le comte revint auprès d'eux et, les retrouvant ensemble, il se sentit joyeux et triompha intérieurement de son habileté. Il laissa Olivier donner le bras à Lady Mowbray pour la reconduire à sa voiture et les suivit par derrière avec une discrétion vraiment maritale. Le lendemain, il fit à Metella le plus pompeux éloge du jeune Suisse et l'engagea à lui écrire un mot pour l'inviter à dîner. Après le dîner, il se fit appeler dehors pour une prétendue affaire imprévue et les laissa ensemble toute la soirée. Comme il revenait seul et à pied, il vit deux jeunes bourgeois de la ville arrêtés devant le balcon de Lady Mowbray, et il s'arrêta pour entendre leur conversation. « Vois-tu la taille de Lady Mowbray au clair de la lune? Oh, on dirait une belle statue sur une terrasse. Bon, le comte est aussi un beau cavalier, comme il est grand et mince. » « Mais c'est pas le comte de Buondelmonte. Celui-ci est plus grand de toute la tête. Que diable est-ce donc? Je le connais pas. »
Au seul jeune duc d'Asti. Non, non, mais non, je viens de le voir passer en Cédiole. Bon, ces grandes dames ont tant d'adorateurs. Celle-là qui est si belle, surtout. Le comte de Montelmonte doit être fier. Bon, c'est un niais. Il s'amuse à faire la cour à cette grosse princesse allemande qui a des yeux de faïence et des mains de macaroni. Tandis qu'il y a dans la ville un petit étranger nouvellement débarqué qui donne le bras à Madame Metella et qui change d'habit 7 fois par jour pour lui plaire. Ah, mais parbleu, c'est lui que nous voyons là-haut sur le balcon. Il a l'air de pas s'ennuyer. Ben, je m'ennuierai pas à sa place. Il faut que Buendelmonte soit bien fou. Le comte entra dans le palais et traversa les appartements avec agitation. Il arriva à l'entrée de la terrasse et s'arrêta pour regarder Metella et Olivier, dont les silhouettes se dessinaient distinctement sur le ciel pur et transparent d'une belle soirée. Il trouva le Genevois bien près de sa maîtresse. Il est vrai que celle-ci regardait d'un autre côté et semblait rêver à autre chose. Mais un sentiment de jalousie et d'orgueil blessé s'alluma dans l'âme italienne du comte. Il s'approcha d'eux et leur parla de choses indifférentes. Lorsqu'ils rentrèrent tous trois dans le salon, Buendelmonte remarqua tout haut que Metella avait été bien préoccupée, car elle n'avait pas fait allumer les bougies. Et il se heurta à plusieurs meubles pour atteindre à une sonnette, ce qui acheva de le mettre de très mauvaise humeur. Le jeune Olivier n'avait pas assez de fatuité pour s'imaginer qu'il pouvait consoler Metella de l'abandon de son amant. Quoiqu'elle ne lui eût fait aucune confidence, il avait pénétré facilement son chagrin et il en voyait la cause. Il la plaignait sincèrement et l'en aimait davantage. Cette compassion, jointe à une sorte de ressentiment des persiflages du comte, lui inspirait l'envie de le contrarier. Il vit avec joie que le dépit avait pris la place de cette singulière affectation de courtoisie, et il reprit la conversation sur un ton de sentimentalité que le comte était peu disposé à goûter. Metella, surprise de voir son amant capable encore d'un sentiment de jalousie, s'en réjouit, et, femme qu'elle était, se plut à l'augmenter en accordant beaucoup d'attention aux Genevois. Si ce fut une scélératesse, elle fut excusable, et le comte l'avait bien mérité. Il devint âcre, querelleur, au point que Lady Mowbray, qui vit Olivier très disposé à lui tenir tête, craignit une scène ridicule et fit entendre au jeune homme qu'il eût à se retirer. Olivier comprit fort bien, mais il affecta la gaucherie d'un campagnard et parut ne se douter de rien jusqu'à ce que Metella lui eût dit tout bas « Allez-vous-en, mon cher monsieur, je vous en prie. » Olivier feignit de la regarder avec surprise. « Allez !» ajouta-t-elle, profitant d'un moment où le comte allait prendre le chapeau d'Olivier pour le lui présenter. « Vous m'obligerez, je vous reverrai. »« Madame, le comte s'apprête à me faire une impertinence. Il tient mon chapeau. Je vais être obligé de le traiter de fat. Que faut-il que je fasse ?»« Rien. Allez-vous-en. » Et revenez demain soir. » Olivier se leva. « Je vous demande pardon, monsieur le comte, » dit-il. « Vous vous trompez. C'est mon chapeau que vous prenez pour le vôtre. Veuillez me le rendre, je vais avoir l'honneur de vous saluer. » Le comte, toujours prudent, non par absence de courage, où il était brave, mais par habitude de circonspection et par crainte du ridicule, fut enchanté d'en être quitte ainsi. Il lui remit son chapeau et le quitta poliment. Mais dès qu'il fut parti, il le déclara souverainement insipide, mal appris et ridicule. Mais c'est comment vous avez fait pour supporter ce personnage, dit-il à Metella. Il faut que vous ayez une patience angélique. Mais il me semble, mon ami, que c'est vous qui m'avez prié de l'inviter, et vous me l'avez laissé sur les bras ensuite. Depuis quand êtes-vous si Agnès que vous ne sachiez pas vous débarrasser d'un fin importun? Vous n'êtes plus dans l'âge de la gaucherie et de la timidité. Metella se sentit vivement offensée de cette insolence. Elle répondit avec aigreur. Le comte s'emporta et lui dit tout ce que depuis longtemps il n'osait pas lui dire. Metella comprit sa position, et en s'éclairant sur son malheur, elle retrouva l'orgueil que son affection irréprochable envers le comte devait lui inspirer. « Il suffit, monsieur, lui dit-elle. Il ne fallait pas me faire attendre si longtemps la vérité. Vous m'avez trop fait jouer auprès de vous un rôle odieux et ridicule. Il est temps que je comprenne celui que mon âge et le vôtre m'imposent. Je vous rends votre liberté. » Il y avait longtemps que le comte aspirait à ce jour de délivrance. Il lui avait semblé que le mot échappé aux lèvres de Metella le ferait bondir de joie. Il avait trop compté sur la force que nous donne l'égoïsme. Quand il entendit ce mot si étrange entre eux, quand il vit en face ce dénouement triste et honteux à une vie d'amour et de dévouement mutuel, il eut horreur de Metella et de lui-même. Il demeura pâle et consterné. Puis un violent sentiment de colère et de jalousie s'empara de lui. « Sans doute, s'écria-t-il, cet aveu vous tardait, madame. En vérité, vous êtes très jeune de cœur et je vous faisais injure en voulant compter vos années. Vous avez promptement rencontré le réparateur de mes torts et le consolateur de vos peines. Vous comptez recourir à lui pour oublier les maux que je vous ai causés, n'est-ce pas? Eh, il n'en sera pas ainsi. Demain, un de nous deux, madame, sera près de vous. L'autre ne vous disputera plus jamais à personne. Dieu ou le sort décideront de votre joie ou de votre désespoir. » Metella ne s'attendait point à cette bizarre fureur. La malheureuse femme se flatta d'être encore aimée. Elle attribua tout ce que le comte lui avait dit d'abord à la colère. Elle se jeta dans ses bras, lui fit mille serments, lui jura qu'elle ne reverrait jamais Olivier s'il le désirait, et le supplia de lui pardonner un instant de vanité blessée. Le comte s'apaisa sans joie, comme s'il était emporté sans raison. Ce qu'il craignait le plus au monde était de prendre une résolution dans l'état de contradiction continuelle où il était vis-à-vis de lui-même. Il fit des excuses à Lady Mowbray, s'accusa de tous les torts, la conjura de ne pas lui retirer son affection et l'engagea à recevoir Olivier dans la crainte qu'il ne soupçonnât ce qui s'était passé à cause de lui. Le jour vint et termina enfin les orages d'une nuit d'insomnie, de douleur et de colère. Ils se quittèrent réconciliés en apparence, mais tristes, découragés. Incertains et tellement accablés de fatigue l'un et l'autre, qu'ils comprenaient à peine leur situation. Le comte dormit 12 heures à la suite de cette rude émotion. Lady Mowbray s'éveilla assez tôt dans la journée. Elle attendait Olivier avec inquiétude. Elle ne savait comment lui expliquer ses paroles de la veille et la conduite de M. de Buondelmonte. Il vint et se conduisit avec assez d'adresse pour rendre Metella plus expansive qu'elle ne l'avait résolue. Son secret lui échappa, et des larmes couvrirent son visage en avouant tout ce qu'elle avait souffert et tout ce qu'elle craignait d'avoir à souffrir encore. Olivier s'attendrit à son tour,
et comme un excellent enfant qu'il était, il pleura avec Lady Mowbray. Il est impossible, quand on est malheureux par suite de l'injustice d'autrui, de n'être pas reconnaissant de l'intérêt et de l'affection qu'on rencontre ailleurs. Il faudrait, pour s'en défendre, un stoïcisme ou une défiance qu'on n'a point dans ces moments-là. Metella fut touchée de la réserve délicate et des larmes silencieuses du jeune Olivier. Elle avait compris vaguement la veille qu'elle était aimée de lui, et maintenant elle en était sûre. Mais elle ne pouvait trouver dans cet amour qu'un faible allègement aux douleurs du sien. Plusieurs semaines se passèrent dans cette incertitude. Le comte ne pouvait rallumer son amour sans cesse prêt à s'éteindre qu'au feu de la jalousie. Dès qu'il se trouvait seul avec sa maîtresse, il regrettait de ne l'avoir pas quittée lorsqu'elle lui avait offert. Alors il ramenait son rival auprès d'elle, espérant qu'une autre affection consolerait Metella et la rendrait complice de son parjure. Mais dès qu'il lui semblait voir Olivier gagner du terrain sur lui, sa vanité blessée et sans doute un reste d'amour pour Lady Mowbray le rejetait dans de violents accès de fureur. Il ne sentait le prix de sa maîtresse qu'autant qu'elle lui était disputée. Olivier comprit le caractère du comte et sa situation d'esprit. Il vit qu'il disputerait le cœur de Metella tant qu'il aurait un rival. Il s'éloigna et alla passer quelque temps à Rome. Quand il revint, il trouva Metella au désespoir et presque entièrement délaissée. Son malheur était enfin livré au public, toujours avide de se repaître d'infortune et de se réjouir à la vue avec les chagrins qu'il ne sent pas. La désertion du comte et ses motifs rendirent le rôle de Lady Mowbray fâcheux et triste. Les femmes s'en réjouissaient, et quoique les hommes la tinssent encore pour charmante et désirable, nul n'osait se présenter dans la crainte d'être accepté comme un pis-aller. Olivier vint, et comme il aimait sincèrement, il ne craignit pas d'être ridicule. Il s'offrit non pas encore comme un amant, mais comme un ami sincère, comme un fils dévoué. Un matin, Lady Mowbray quitta Florence, sans qu'on sût où elle était allée. On vit encore le jeune Olivier pendant quelques jours dans les endroits publics, se montrant comme pour prouver qu'il n'avait pas enlevé Lady Mowbray. Le comte lui en sut bon gré et ne lui chercha pas querelle. Au bout de la semaine, le Genevois disparut à son tour, sans avoir prononcé devant personne le nom de Lady Mowbray. Il la rejoignit à Milan, où, selon sa promesse, elle l'attendait. Il la trouva bien pâle et bien près de la vieillesse. Je ne sais si son amour diminua, mais son amitié s'en accrut. Il se mit à ses genoux, baisa ses mains, l'appela sa mère et la supplia de prendre courage. « Oui, appelez-moi toujours votre mère, lui dit-elle. Je dois en avoir pour vous la tendresse et l'autorité. Écoutez donc ce que ma conscience m'ordonne de vous dire dès aujourd'hui. Vous m'avez parlé souvent de votre affection, non pas seulement de celle qu'un généreux enfant peut avoir pour une vieille amie, mais vous m'avez parlé comme un jeune homme pourrait le faire à une femme dont il désire l'amour. Je crois, mon cher Olivier, que vous vous êtes trompé alors, et qu'en me voyant vieillir chaque jour, vous serez bientôt désabusé. Quant à moi, je vous dirai la vérité. J'ai essayé de partager tous vos sentiments. Je l'ai résolu, je vous l'ai presque promis. Je ne devais plus rien à Buon del Monte, et je me devais à moi-même de le laisser disposer de son avenir. J'ai quitté Florence dans l'espoir de me guérir de ce cruel amour et d'en ressentir un peu plus jeune et plus enivrant avec vous. Eh bien,
Je ne vous dirai pas aujourd'hui que ma raison repousse cette imprudente alliance entre deux âges aussi différents que le vôtre et le mien. Je ne vous dirai pas non plus que ma conscience me défend d'accepter un dévouement dont vous vous repentiriez bientôt. Je ne sais pas à quel point j'écouterais ma conscience et ma raison si l'amour était une fois rentré dans mon cœur. Je sais que je suis encore malheureusement bien jeune au moral, mais voici ma véritable raison. Olivier, n'en soyez pas offensé, et songez que vous me remercierez un jour de vous l'avoir dite, et que vous m'estimerez de n'avoir pas agi comme une femme de mon âge, blessée dans ses plus chères vanités, eût agi envers un jeune homme tel que vous. Je suis femme, et j'avoue qu'au milieu de mon désespoir, j'ai ressenti vivement l'affront fait à mon sexe et à ma beauté passée. J'ai versé des larmes de sang en voyant le triomphe de mes rivales, en essuyant les railleries de celles qui sont jeunes aujourd'hui et qui semblent ignorer qu'elles passeront et que demain elles seront comme moi. Eh bien, Olivier, je me suis débattu contre ce dépit poignant. J'ai résisté au conseil de mon orgueil qui m'engageait à recevoir vos soins publiquement et à me parer de votre jeune amour comme d'un dernier trophée. Je ne l'ai pas fait. Et je remercie Dieu et ma conscience. Je vous dois aujourd'hui une dernière épreuve de loyauté. Arrêtez, madame, dit Olivier, et ne m'ôtez pas tout espoir. Je sais ce que vous avez à me dire. Vous aimez encore le comte de Buondelmonte, et vous voulez rester fidèle à la mémoire d'un bonheur qu'il a détruit. Je vous en vénère et vous en aime davantage. Je respecterai ce noble sentiment et j'attendrai que le temps et Dieu vous parlent en ma faveur. Si j'attends en vain, je ne regretterai pas de vous avoir consacré mes soins et mon respect. Lady Mowbray serra la main d'Olivier et l'appela son fils. Ils se rendirent à Genève et Olivier tint ses promesses. Peut-être ne furent-elles pas très héroïques d'abord, mais au bout de 6 mois, Metella, apaisée par sa résignation et rétablie par les vives des montagnes, retrouva la fraîcheur et la santé qu'elle avait perdue. Ainsi qu'on voit, après les premières pluies de l'automne, recommencer une saison chaude et brillante, Lady Mowbray entra dans son été de la Saint-Martin. C'est ainsi que les villageois appellent les beaux jours de novembre. Elle en devint si belle qu'elle espéra avec raison jouir encore de quelques années de bonheur et de gloire. Le monde ne lui donna pas de démenti, et l'heureux Olivier, moins que personne. Ils avaient fait ensemble le voyage de Venise, et à la suite des fêtes du carnaval, ils s'apprêtaient à revenir à Genève, lorsque le comte de Buondelmonte, tiré à la remorque par sa princesse allemande, vint passer une semaine dans la ville des Doges. La princesse Wilhelmine était jeune et vermeille, mais lorsqu'elle lui eut récité une assez grande quantité de phrases apprises par cœur dans ses livres favoris, elle rentra dans un pacifique silence, dont elle ne sortit plus que pour redire ses apologues et ses sentences accoutumées. Le pauvre comte se repentait cruellement de son choix et commençait à craindre une luxation de la mâchoire s'il continuait à jouir de son bonheur, lorsqu'il vit passer dans une gondole Metella avec son jeune Olivier. Elle avait l'air d'une belle reine suivie de son page. La jalousie du comte se réveilla et il rentra chez lui déterminé à passer son épée au travers de son rival. Heureusement pour lui ou pour Olivier, il fut saisi d'un accès de fièvre qui le retint au lit 8 jours. Durant ce temps, la princesse Wilhelmine, scandalisée de l'entendre invoquer sans cesse dans son délire Lady Mowbray, prit la route de Wurtemberg avec un chevalier d'industrie qui se donnait à Venise pour un prince grec et qui, grâce à de fort belles moustaches noires et un costume théâtral, passait pour un homme très vaillant. Pendant le même temps, Lady Mowbray et Olivier quittèrent Venise sans avoir appris qu'ils avaient heurté la gondole du comte de Buondelmonte et qu'ils le laissaient entre deux médecins dont l'un le traitait pour une gastrite et l'autre pour une affection cérébrale. À force de glace appliquée par l'un sur l'estomac et par l'autre sur la tête, le comte se trouva bientôt guéri des deux maladies qu'il n'avait pas eues et revenant à Florence, il oublia les deux femmes qu'il n'avait plus.